Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Alors, mon nom est Pierre Albaladejou, pour ceux qui ne me connaissent pas, n'est-ce pas? C'est la première fois que je prêche dans cette église, donc c'est toujours un peu impressionnant de commencer. Alors, vous êtes impressionnant, mais il y a moins de monde que d'habitude. Donc, c'est plus facile pour moi. C'est cool. Alors, j'aimerais poursuivre, ce que nous faisons tout l'été, dans l'étude des proverbes. Et les proverbes nous enseignent pas mal de choses. Et ce matin, on va encore apprendre du Seigneur. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions nous transporter dans un petit village, au cœur d'une forêt profonde. Alors, dans cette forêt vit un petit peuple où règne la paix, la joie et la bonne humeur. Ça commence bien, hein? Les caractéristiques des habitants de ce village nous rappellent d'une certaine manière la pluralité des personnalités que l'on peut trouver dans notre société actuelle. On y rencontre des musiciens, des poètes, des paysans, des bricoleurs, des paresseux aussi, des prudents, des gourmands, alors costauds, croqués, gentils, bavards, raseurs, sans oublier, bien entendu, la schtroumpfette, le bébé schtroumpf et le grand schtroumpf. Quel rapport avec les proverbes? Mais celui qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le schtroumpf grognon, figurez-vous. Ce personnage qui est né de l'imagination de Peyot, l'auteur de cette BD bien connue, en fait n'est jamais content. Eh oui. Quelles que soient les circonstances, heureuses ou malheureuses, il est toujours insatisfait, et d'ailleurs son leitmotiv, c'est toujours « j'aime pas ». Je vois... Il y a des gens qui connaissent la BD, c'est bien. Ce personnage complètement fictif, bien entendu, n'est jamais content et donc, par la force des choses, il n'est jamais heureux. Ben oui. Bon, ça c'était l'introduction. Donc, revenons, après cette escapade bucolique, aux réalités de notre monde quand même. Parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Je suis persuadé que nous avons tous des exemples qui nous viennent à l'esprit concernant des personnages ou des personnes de notre entourage, plus ou moins proches, et qui ressemblent à s'y méprendre à ce schtroumpf grognon. D'accord. Des gens qui sont toujours insatisfaits, toujours négatifs, jamais contents de leur sort, et souvent enviant continuellement ce que les autres ont et qu'eux n'ont pas. J'ai pris cette image car malgré le fait que ce village n'existe pas, bien entendu, il n'est pas moins le reflet, certes un petit peu enjolivé, de ce qui se passe dans notre monde actuel. Le livre des Proverbes, on y vient quand même, comme nous l'avons vu tout au long de l'été, est une compilation de sentences ayant trait à la sagesse appliquée à notre vie de tous les jours. Salomon, d'ailleurs, s'adresse à son fils pour lui transmettre l'expérience qu'il a accumulée tout au long de sa vie. Ces sentences sont écrites la plupart du temps en mettant en opposition le sage et l'insensé. Celui qui connaît Dieu et suit ses préceptes, et celui qui rejette Dieu et suit les penchants de son cœur naturel. Le proverbe 15 que nous allons étudier ce matin ne déroge pas à cette règle. On y trouve la plupart des qualités du sage et les défauts de l'insensé, bien entendu, comme l'instruction, la prudence, la droiture, la justice, la science, la sagesse, l'intelligence, les conseils, l'humilité aussi, mais aussi la colère, la folie, la paresse, l'orgueil, l'avidité ou la méchanceté, et etc. Je ne les ai pas tous pris en charge. Nous allons nous focaliser dans ce proverbe sur les versets 15 à 17 qui nous parlent du cœur content et satisfait de ce qu'il a. D'où le titre de notre prédication de ce matin, « Un cœur content ». Si nous lisons ces versets dans les proverbes, donc chapitre 15, versets 15 à 17, « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Le but, ce matin, sera de découvrir ce que ces quelques versets, ces trois versets, peuvent nous apprendre personnellement sur la façon dont nous vivons notre foi et surtout l'influence qu'elle a sur notre comportement de tous les jours. Parce que c'est là le plus important, en fait. La foi sans les œuvres est morte, vous le savez. Sommes-nous contents de ce que nous possédons ou l'insatisfaction nous guette-t-elle quand les circonstances semblent plus difficiles dans nos vies? Alors, afin d'arriver à nos fins, nous allons définir premièrement ce qu'est le contentement, pour savoir de quoi on parle exactement, puis comment arriver à être content quelles que soient les circonstances, parce que c'est bien là le challenge de nos vies, souvent. Et enfin, quels sont les effets du contentement sur notre vie de tous les jours? Ok? Alors, voyons comment ça marche, ça. J'ai des petites flèches, donc ça doit avancer. Pas du tout. C'est dans l'autre sens. D'accord. Ah ouais. C'est pas mal. Là, ça marche. Alors, nous allons voir donc qu'est-ce que c'est que le contentement réellement. Hein, on va découvrir qu'il est durable et qu'il ne désire rien de plus. Ensuite, on va essayer de répondre à cette question, comment arriver à être content, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est plus difficile déjà, hein. C'est beaucoup plus qu'une définition. Et enfin, quels sont les effets du contentement sur ma vie? On verra que le contentement produit la joie, la crainte de l'Éternel et l'amour. Je vous laisse ça, d'accord? Comme ça, vous pourrez suivre. Alors, qu'est-ce que c'est que le contentement? Le petit Larousse, parce que moi j'aime bien revenir aux incontournables, hein, le petit Larousse donne une définition assez complète du contentement. C'est un état, sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus, une satisfaction vive et durable, un plaisir, une joie. Ça a l'avantage d'être carré. Cette définition nous donne déjà une base simple pour développer notre propos de ce matin. Premièrement, le contentement est un état durable. En effet, notre problème principal concernant le contentement, c'est qu'en tant que chrétien, on est content quand tout va bien. Ça, c'est relativement facile, mais quand les circonstances sont plus difficiles, nous avons tendance, confessons-le, j'espère que je suis comme vous, hein, à nous plaindre de notre état un peu dégradé, moins d'argent, moins de santé, moins de réussite, etc., etc. Pourtant, si nous revenons à notre définition du Larousse, l'état de contentement est donc durable, mais il ne désire rien de plus. Là aussi, en tant que chrétien, nous savons que Dieu est le maître de notre vie et des circonstances qui nous entourent et règlent notre existence. Rien ne nous arrive sans sa permission et sa volonté. Même, nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, le verset que vous connaissez tous par cœur, je pense, « Tout concourt à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8, 28. Alors, ce verset, c'est en effet l'arme ultime du chrétien consolateur, de celui qui veut remonter le moral du frère ou de la sœur qui traverse des moments difficiles, mais qui a aussi beaucoup de mal à se l'appliquer à lui-même quand les choses tournent mal pour lui. Hélas. Alors là, oui, nous touchons bien au fond du problème. Nous sommes capables de nous approprier les vérités de la parole de Dieu, mais enfin, le sommes-nous quand tout va mal dans notre vie? Car Dieu, tôt ou tard, nous fera passer par l'épreuve. N'en doutez pas. Sommes-nous capables de dire, comme l'apôtre Paul, « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » De Corinthiens 12, 10. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire qu'il recherche des outrages, ou des calamités, ou des persécutions, sinon on pourrait le taxer de masochiste. Mais il a découvert une chose primordiale, c'est qu'il devait abandonner sa propre force, ses propres aptitudes, afin que la force de Christ repose sur lui. Alors, sommes-nous prêts à nous abandonner totalement à Christ? C'est une question, mais c'est profond, parce que c'est là l'âme de notre existence chrétienne, en fait, réellement. Les vérités bibliques ne dépendent pas de nos circonstances, elles sont applicables à notre vie de dans tous les cas, car c'est Dieu qui dirige nos existences pour notre bien, afin que nous découvrions de plus en plus son Fils bien-aimé, notre modèle et sauveur. Alors, pourquoi désirer plus que ce que nous donne déjà notre Dieu? Dans le Nouveau Testament, le terme grec employé pour le contentement ou être content, je vous passe le terme, autarkeia, etc., je ne suis pas grec, regroupe donc l'action de se satisfaire du nécessaire, comme on l'a vu, et aussi de modérer ses désirs. Ça, c'est intéressant. Ces deux actions, d'ailleurs, sont complètement en contradiction avec ce que nous enseigne le monde sur la manière de gérer nos vies. En effet, le monde ne nous dit pas plutôt de toujours consommer plus, allant même plus loin, en liant notre consommation avec notre bonheur. Quand nous regardons la télévision, ça nous arrive des fois, les publicités dont nous sommes continuellement abreuvés nous parlent toujours de consommation et de bonheur d'ailleurs. Et c'est toujours lié. Achète cette nouvelle voiture et tu seras plus heureux. Même tu auras beaucoup plus de succès avec les filles. Si, si. Un tas de ferraille, des filles, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, apparemment, c'est lié. Nos possessions ne reflètent-elles, c'est difficile à dire quand même, ne reflètent-elles pas aux yeux du monde notre réussite et notre rang social? Si tu ne pars pas en vacances sur telle île, dans tel hôtel, ben, tu ne pourras pas être heureux. Sans oublier d'utiliser Trivago ou Expedia.fr, etc. Hein, parce qu'il faut faire vivre le commerce quand même. Hein. Si tu ne possèdes pas non plus le dernier portable à la mode, dont je tairai la marque, et surtout au top de la technologie, hein, ben, tu ne pourras pas t'épanouir pleinement, c'est clair. Et tes amis d'ailleurs se moqueront de ton vieil appareil, qui fonctionne pourtant très bien. La Bible ne nous dit pas cela. La parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4:4. Mais alors, quand on voit le monde qui nous entoure, est-ce que demande la Bible de nous? Mais on se rencontre vite et on voit le décalage énorme entre l'enseignement du monde et celui de la parole de Dieu. Il devient donc évident que seul celui qui connaît Dieu et veut lui obéir pourra être content de ce que lui donne son Seigneur. Les gens du monde ne peuvent pas connaître cette plénitude, tout simplement car ils ne connaissent pas celui qui peut les remplir jusqu'à toute plénitude. Bien, donc ceci étant établi, ça veut donc dire que le chrétien est toujours content en tout temps. Vous êtes d'accord? D'accord. Et force est de constater, en scrutant nos propres vies, que ce n'est pas toujours le cas, hélas. Si nous sommes complètement honnêtes avec nous-mêmes et avec nos frères et sœurs, on est obligé de le reconnaître. Nous arrivons donc à ce stade au second point de notre étude. Comment arriver à être content, quelles que soient les circonstances? D'accord? Alors, afin d'illustrer et de répondre à cette question, j'aimerais partager avec vous l'expérience de Paul. Paul, il est souvent là, quand il y a une question d'expérience. Et il nous en parle dans sa lettre aux Philippiens. « J'ai appris », c'est un passage qu'on vient de lire au début du culte, « j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Philippiens 4:12. Le verbe employé ici par Paul, « j'ai appris », induit deux choses. Apprendre, effectivement, j'ai appris, apprendre par l'étude de la parole de Dieu, mais également apprendre par l'expérience personnelle. Alors là, j'ai une très mauvaise nouvelle pour nous tous. Je suis désolé de vous dire que le contentement, ben, il ne tombe pas tout cuit du ciel, comme si c'était un don de Dieu nécessitant aucune action de notre part. Comme Paul, il a appris. Quand Paul nous dit « j'ai appris », nous apprenons que cet apprentissage lui a demandé un réel effort en temps, en investissement personnel et en volonté. Alors, pour nous, ça doit bien être pareil, hein, je suppose. Si nous soupirons après le contentement, eh bien, cela va nous demander un effort. Dans nos têtes, le terme « effort » implique nécessairement douleur et fatigue. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Ce n'est pas faux. En effet, si nous voulons apprendre de Dieu comment nous pouvons être contents en toutes circonstances, alors il va falloir passer du temps dans l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Il va falloir équilibrer et gérer nos vies en fonction non pas de nos propres désirs, mais selon ce que l'on aura justement appris de Dieu dans sa parole. Toutefois, Jean, dans sa première lettre, nous dit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » 1 Jean 5,3. Le fait d'étudier la parole de Dieu peut sembler impliquer un effort soutenu et donc fatigant. Mais quand on plonge nos regards dans cette parole, on se rend vite compte que ce livre est en fait une personne, Jésus-Christ, et que l'étude de la Bible nous permet de connaître de mieux en mieux notre Sauveur, celui qui a donné sa vie pour nous. Moi, j'appelle ça un effort qui n'est pas pénible. À mesure que nous découvrons la beauté de Jésus, nous sommes naturellement poussés par l'Esprit à appliquer ses commandements à notre vie afin de lui être agréable, tout simplement par reconnaissance. Dans la même lettre, on peut aussi lire « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » 1 Jean 2,15 cette fois. Pour avoir donc l'amour de Dieu en nous, il ne faut pas aimer le monde. Si nous regardons le monde d'ailleurs, et ce qu'il est en train de devenir, nous voyons bien que les hommes sont en train de détruire la Terre. D'une manière accélérée d'ailleurs. Le dérèglement climatique en est une image frappante. La consommation débridée des pays riches, l'égoïsme érigé en loi, font que les ressources naturelles du monde créées par Dieu sont en train de fondre. La pollution amène notre planète à une autodestruction programmée. Mais alors, comment changer cela à notre échelle personnelle? Que puis-je faire à mon petit niveau? Bien, tout simplement, Dieu nous demande d'être en rupture avec ce monde de vie, avec ce mode de vie, et revenir à l'essentiel. Dieu nous demande de vivre dans l'amour de l'autre, en nous contentant de ce qu'il nous donne. Tôt ou tard, l'humanité, si elle veut rester sur la terre, devra revenir à un mode de vie simple, vertueux, en harmonie avec la nature. Si nous devons anticiper cette prise de conscience, c'est maintenant. Se contenter de l'essentiel ne veut pas dire se priver de tout, mais plutôt accepter de partager les ressources que Dieu met à notre disposition, en opposition avec l'égoïsme ambiant. Quand nous décidons de vivre en conformité avec les commandements de Dieu, quand nous décidons d'apprendre à être content de ce qui nous est donné d'en haut, alors cela produit en nous des effets visibles de tous. Et on en vient à notre troisième point. Quels sont donc ces effets sur notre vie? Revenons donc, si vous le voulez bien, à notre passage. Les trois versets 15 à 17 du chapitre 15 de Proverbes nous donnent trois effets visibles qui découlent du contentement. On va les relire. « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. » Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Et mieux vaut l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Alors le verset 15, ce verset met en opposition le malheureux dont les jours sont mauvais et le cœur content dont les jours sont un festin perpétuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le malheureux ne connaît pas Dieu. Il est toujours en train de courir après la satisfaction illusoire de ses désirs. Ce style de vie, c'est un puits sans fond. Ça génère toujours, inéluctablement, une insatisfaction chronique. En effet, si on regarde le monde actuel, il se charge très bien, une fois notre dernier désir comblé, d'en créer un autre, tout aussi important d'ailleurs, et ainsi de suite. Le fait de désirer quelque chose rend cette chose attirante et merveilleuse à nos yeux. Mais une fois le but atteint, notre désir s'éteint aussi vite qu'il s'est allumé. Et nous devrons continuer à courir après le désir suivant. Je me souviens d'ailleurs de nos fêtes de Noël en famille, de nos enfants, aux yeux pétillants, d'impatience dans l'attente de l'ouverture de leurs cadeaux. Ces jours-là étaient toujours un moment de joie intense, pour eux, bien sûr, mais aussi pour nous, parents. Alors, voir leurs yeux émerveillés à la découverte de leurs cadeaux était pour nous le plus beau des cadeaux. C'était merveilleux. Alors, Je ne voudrais pas casser l'ambiance. Mais quelques jours après, tous ces cadeaux si merveilleux étaient souvent remisés sur une étagère. Au mieux, utilisés de temps en temps. Mais la magie de la découverte avait disparu, hélas. Bon, afin de ne pas accuser toujours et uniquement mes enfants, je me souviens moi aussi, hein, très bien quand j'étais enfant aussi, hein, avoir reçu comme eux, peut-être un peu moins d'ailleurs, des cadeaux tout aussi merveilleux. Mais je dois le confesser, après quelques heures de jeu, j'avais la fâcheuse tendance d'utiliser ces emballages de cadeaux reçus pour m'amuser. Plus que les cadeaux eux-mêmes d'ailleurs. Aux grandes dames de mes parents, hein, qui étaient un peu frustrés d'avoir dépensé autant de l'argent pour en arriver à cette utilisation. S'ils avaient su, ils m'auraient acheté un carton, quoi, tout simplement. Tout cela pour vous dire que les jours du malheureux sont mauvais, car il est toujours en train de courir après quelque chose que ne peut lui offrir le monde, le contentement. Le corps content, lui, part du principe que ce que Dieu lui donne est bon pour lui. Que ce soit peu ou beaucoup, c'est bon pour lui. Alors dans cette optique, le peu du cœur content devient un festin perpétuel de joie et de reconnaissance. Alors voulons-nous être toujours contents et reconnaissants de ce que Dieu nous donne, avec amour, et découvrir cette joie qui vient directement du Père des Lumières. C'est le premier effet visible. Le verset 16, lui, met en opposition le peu de celui qui craint l'Éternel et le grand trésor de celui qui est troublé dans sa vie. Le fait d'être toujours content, quelles que soient les circonstances, implique que l'on fait confiance en Dieu pour notre subsistance, notre travail, nos biens, notre santé, notre famille, etc. Craindre Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. Non. Par contre, c'est le mettre à la première place dans notre vie. C'est lui céder les commandes, c'est lui donner toutes les clés de notre être intérieur et extérieur, afin qu'il puisse nous diriger complètement. Quand nous faisons cela, eh bien ça se voit. Ce qui se passe à l'intérieur de nous se voit à l'extérieur. C'est l'effet Bifidus. Alors sommes-nous prêts à donner les commandes de nos vies à celui qui veut nous diriger avec amour ? Salomon nous dit bien que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse, comme nous l'avons vu auparavant. Parlons du verset 17. Alors là, c'est comme l'apothéose qui clôture un feu d'artifice. À Toulouse, c'est beau. Tout ce que l'on vient de voir, tout ce qu'on a appris concernant le contentement du cœur, nous amène au plus haut sentiment que l'on peut connaître. Le terme employé ici par Salomon, en hébreu, alors, Ahaba, je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça, hein. Et ben, ce terme est utilisé dans l'Ancien Testament pour nommer soit l'amour humain pour notre sujet humain, soit l'amour de Dieu pour son peuple. Comprendre que Dieu nous aime, comprendre que c'est lui qui pourvoit tous nos besoins, quels qu'ils soient, savoir se contenter de ce qu'il nous donne comme étant le meilleur pour nous, aimer partager avec les autres nous amène naturellement à considérer d'une manière différente l'intérêt de ce qui nous entoure. Non pas celle du monde, mais plutôt celle de Dieu. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous donne la mesure de ce que doit être notre relation avec les autres. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Waouh, Philippiens 2:3. C'est beau, mais c'est dur. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2:4. Le passage ne nous dit pas de ne pas considérer nos propres intérêts, mais de considérer aussi ceux des autres. Le troisième effet, effectivement, surpasse tous les autres. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13:13. Sans amour, ce que l'on peut faire croire ou penser ne sert strictement à rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13:3b. Alors voulons-nous expérimenter cet amour des autres et de Dieu dans notre vie ? Oui. Alors notre conclusion ce matin est toute simple. Sommes-nous prêts, tous ici, tant que nous sommes, à être contents, comme Paul, dans l'état où nous nous trouvons en faisant confiance à Dieu ? Sommes-nous prêts à apprendre, comme Paul, à nous investir dans la recherche de ce contentement qui vient de Dieu ? Et sommes-nous prêts à aller à contre-courant du monde et à apprendre à vivre simplement en appréciant ce que Dieu nous donne ? Eh bien, si nous sommes prêts à prendre ce chemin étroit, alors nous verrons des effets dans notre vie qui nous amèneront à glorifier notre Seigneur et Maître. La crainte de l'Éternel sera en nous pour le placer toujours à la première place. Nous vivrons notre vie comme un festin perpétuel dans la joie, quelles que soient les circonstances. Et l'amour de Dieu, qui surpasse toute intelligence, débordera en nous jusqu'à toucher ceux qui nous entourent. Que Dieu nous donne de pouvoir vivre ces choses, avec son aide bien entendu, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Prions s'il vous plaît. Seigneur, nous sommes bien peu de choses, Seigneur, et tu connais nos défaillances, Seigneur, comme nous le chantons certaines fois, mais nous comptons sur toi, Seigneur. Nous savons que c'est toi qui pourvois nos besoins, c'est toi qui nous donne tout d'en haut, Seigneur, et qui nous donne tout pour que nous soyons heureux, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à être contents de ce que tu nous donnes. Apprends-nous à aimer les autres, Seigneur, à tenir compte aussi de ce qu'ils pensent. Et Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains, sachant que sans toi, nous sommes incapables d'une seule bonne œuvre. Mais nous savons qu'avec toi, nous pouvons transporter des montagnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.